Alors, en fait, ce que je vous présente aujourd'hui est la deuxième conférence que je fais sur ce projet de postdoctorat qui porte sur les sons dans le roman contemporain. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Ben Othman, qui est un auteur peu connu. C'est l'auteur de trois romans, de deux recueils de nouvelles, qui est mort en 2015. Et je vais m'arrêter plus précisément sur un roman qu'on a déjà évoqué au Christ à deux reprises, Éboueur sur échafaud. Et donc, je vais reprendre la réflexion là où l'avait laissé Pierre dans ce court texte qu'il a écrit sur l'incipit d'Éboueur pour échafaud, sur échafaud, excusez-moi, et qui était paru dans les 12 travaux du texte. C'était un recueil de travaux collectifs qu'on avait publié avec les ethnocriticiens il y a quelques années. Et en fait, la réflexion de Pierre Porté sur l'incipit du roman qui commence par cette phrase-là, le savoir lire et écrire ne lui servait à rien. Et ce que Pierre explique, c'est que le roman s'ouvre sur la découverte de l'inutilité de l'école républicaine. Vous avez Fafa, ce personnage d'enfant qui a tout fait, qui a appris à lire et à écrire et qui découvre que cette connaissance ne lui apporte aucune reconnaissance sociale. Et en trois, il regarde dans le calendrier des PTT, des pompiers, des éboueurs, il regarde dans le bottin et son nom ne figure pas dans ces calendriers. En trois paragraphes, le roman épingle et critique ce glissement sémantique des discours sur l'immigration qui parlait jadis de l'intégration et qui en font une sorte de devoir attribué à l'immigrant qui doit lui s'intégrer. Cette question de l'exclusion sociale, eh bien, je souhaite la reprendre en me demandant comment le roman l'inscrit dans sa propre matière scripturale et comment il fait et comment il mobilise les sons pour évoquer cette question-là. Ce que le roman invente, et c'est là, disons, l'hypothèse qui fonde ma lecture, c'est une écriture qui reprend des lexiques, des récits, des discours d'exclusion, en même temps qu'il leur échappe par l'invention d'une langue sonore, complexe, inventive, qui est la brèche que le roman invente pour faire entendre avec humour et inventivité la voix de l'enfant qui est la victime de ces discours excluants. Alors le livre est largement autobiographique, c'est un récit d'enfance qui raconte l'histoire d'un enfant docile et tendre qui fait tout pour s'intégrer et qui découvre que tout l'exclut. Ni algérien, algérien d'origine, mais non pas considéré comme tel, et dépourvu de la nationalité française alors qu'il a passé toute son enfance dans le 6e arrondissement, Fafa doit affronter les insultes racistes de ses camarades de classe au collège et le rejet de la famille algérienne lors des retours au bled. Socialement, la famille Bounoura est logée dans un HLM qui se situe dans le 6e arrondissement et forme une sorte de famille modeste parmi les gens aisés. Ils vivent dans un HLM, mais celui-ci se trouve à trois pâtés de maison du jardin du Luxembourg. Ce qui ne va pas sans poser de problème à Fafa, puisque en fait il se met à voler pour s'intégrer, pour avoir à peu près exactement ce que les autres ont et ne pas être totalement démarqué et rejeté socialement dans l'école où il est. Dernier de la fratrie Bounoura, il grandit comme ses deux sœurs et son frère aîné sous la tyrannie d'un père qui élève ses enfants sous les coups et les ordres. Éducation d'autant plus dure que, le roman l'explique très bien aussi, le père qui vient d'Alger a lui-même vécu toute une vie de sacrifice, d'humiliation et de labeur. Et bien, toute la série d'épreuves que connaît cet enfant-là commence par la cérémonie, une cérémonie de circoncision qui compose le premier chapitre du roman, et, qui est décrite comme une scène de cruauté, de mensonge et de cannibalisme familial que Sophie Ménard avait très bien décrit dans, ce que, dans l'étude ethnocritique qu'elle avait fait de ce passage. Et ensuite, on voit Fafa essayer de complaire à toutes les exigences paternelles jusqu'au jour où, où Nadia, sa sœur, est violemment battue par le père parce qu'elle a dérobé un billet de 100 francs dans le portefeuille paternel. Et c'est un premier moment de bascule qui est suivi d'autres épisodes de violence, d'injustice, d'abus, de mensonges. Et en un an de collège, sous les insultes racistes, le Fafa, qui était un enfant tendre et docile, prend le visage dur d'un petit voyou. Qui va être désormais en défi permanent de toutes les figures d'autorité du collège, de la police, de la justice, et commence à seulement à voler. C'est-à-dire, il y a toute une scène au Monoprix où l'argent est dévoré, où les enfants sont attrapés puis ramenés devant le responsable des lieux, qui est très intéressante. Mais si vous voulez, dans les récits d'incarcération qui suivent d'autres vols un peu plus importants que celui-là, on a en sous-texte en fait ce que racontera Marche de nuit sans lune, qui est cette fois-ci un roman carcéral qui évoque les expériences de braquage et les épisodes carcéraux qu'a connu l'auteur lui-même, puisqu'il a passé ses années de sa vie en prison et parce qu'il a commis trois braquages de banque. Alors, quelle est la place des sons dans ce roman ? La langue sonore de Ben Othman relève d'un mode d'expression dialogique qui est manifeste dans le choix même d'une langue orale et populaire. Vous allez me dire, dans un roman contemporain, cela n'a absolument plus rien de révolutionnaire. Cela s'inscrit plutôt dans une tradition d'élargissement de la visée littéraire aux formes du français qui en est déjà dix banni. Et ça se manifeste d'abord dans le français populaire du texte, où surgissent des mots comme la barbaque, des expressions comme un avenir plutôt jojo, des formules figées du type Médine inquiet de chez Angoisse, etc. L'argot, alors ce n'est pas la même chose que du français populaire, hein, c'est un lexique. Le français populaire, ce n'est pas seulement un lexique, c'est d'autres phénomènes linguistiques beaucoup plus larges. Mais l'argot apparaît également dans les mots de la rue, hein, ratiboiser le crâne chez le Merlan, dans les discussions de chantier du père, à qui un camarade demande on t'a bougé un corneille de ta profonde. Le corneille, c'est le billet de 100 francs de l'époque. Cet argot revient en force dans les épisodes carcéraux de la fin du livre, surtout dans la lourde, c'est-à-dire la porte des prisons, le cheval pour parler de la cam, le raton qui se cavale, etc., etc. On a également des sauts de registre impromptus, toujours plus ou moins lié à une intention de blasphème, hein, c'est Fafa qui demande « Il était omniscient, oui ou merde ?» en parlant d'Allah, avec soit un usage comique de l'insulte, « Ta mère en string !» ceci accompagne également des néologismes curieux, comme l'adjectif « zizanique », qui n'aurait pas déplu à Gaston Lagaffe, des adjectifs comme des découragements fafadiens, des verbes étranges comme coïter, avec une tendance à l'analité assez visible dans le troulala de Fafa ou dans celui de Hugues, tellement laid qu'il ne risque pas de se faire rectomiser. D'après le texte, toujours, la langue de ce roman fait également place à des bizarreries linguistiques, comme les possessifs substantivés auxquels les personnages ont souvent recours, du type son sien à lui, ou Kim s'enferma dans son elle-même, lesquels sont répétés et toujours en italique pour montrer justement que ces personnages d'enfants sont privés de tout. Alors, Il y a tout un tas de phénomènes syntaxiques également. Je pourrais y revenir, mais je passe là-dessus parce que il me semble secondaire par rapport à d'autres phénomènes. Cette oralité, je reviendrai au passage précédent, mais cette oralité particulière, elle prend une dimension organique lorsque le petit Fafa, qui souffre d'otite chronique, voit sa mère le soigner en lui soufflant à l'aide d'une paille, à l'aide d'une paille une cuillerée d'huile d'olive chauffée. Avec beaucoup de retard, un médecin de rang, ils sont en vacances, un médecin de rang regarde le conduit auditif de Fafa et déclare que son tympan est crevé. Alors, la litanie des tentatives d'explication que vous avez sous les yeux, celle du médecin, de la mère qui se dédouane, de la famille qui met ça sur le dos de l'enfant qui s'en fout, tout ceci attire à plusieurs reprises l'attention sur le tympan crevé de ce personnage principal. Et selon ma lecture, en tout cas, de cette insuffisance auriculaire, excusez-moi, le roman fait un dérèglement du sens auditif qui recrée l'univers de l'enfant selon des distorsions sonores. Alors, il y a bien sûr les onomatopées et les interjections qui abondent dans le vocable du roman. Les booms des coups du père, les cris de douleur des enfants, les borborygmes à table ou les haut-le-cœur, hein, le nourg qui revient assez souvent, les exclamations des élèves au collège, oh, oh, oh là là, les klaxons de la voiture familiale au bas de l'immeuble qui revient en permanence. Ce sont aussi les cris et les autres sons de la ville parisienne qui sont omniprésents. Et bien sûr, tous les bruits métalliques qui renvoient à l'univers des palais de justice et de la prison. Alors, c'est le centre de détention pour jeunes de Fleury-Mérogis dans ce cas-là. Mais c'est très, 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 très présent aussi. Ces sons affectent l'onomastique du roman, essentiellement composé de diminutifs affectueux. Et l'onomastique est affecté de redoublements syllabiques hein, dans la seule famille Bounoura, patronyme lui-même affecté par le phénomène. Cette famille réunit Nourdine, dit Nono, Farah, dit Fafa, auquel s'ajoute la voisine Monique Calderini, là aussi redoublement syllabique dans la dernière partie du nom. Jésus, dit Kiki, Gégé, le petit ami éphémère de Kim. Et la chienne Lubelle, dite Lulu. Les personnages y prennent des épithètes homériques à valeur comique, du type Fafa le minuscule ou Nono aux doigts qui puent. Des effets d'écho se laissent entendre dans la toponymie du texte elle-même, comme dans Tati à Barbès, où la composition à deux syllabes est redoublée par la voyelle A initiale. Cette réitération syllabique s'étend aux substantifs familiers du type cuculerie. Elle renvoie au bruit du roman, comme celui du brouhaha dans le couloir du HLM. Elle met parfois en lumière des bizarreries sonores du français, comme la consonne Z récurrente dès lors qu'on parle du sexe masculin dans le roman, le zizi martyrisé de Fafa, le zozio, le zob, la pauvre zigounette ou le zigouigoui de Fafa. Etc. Alors, la trame sonore du roman tient parfois à des phénomènes moins évidents, comme ceux de l'incipit que vous avez sous les yeux, qui forment des homéothélètes, c'est-à-dire répétition d'un même son à la fin d'une phrase ou d'un syntagme. C'est cette figure de style qu'on considère souvent comme l'introduction de la rime ou de l'assonance dans la prose. Et homéothélètes qu'on ne voit pas parce qu'elles sont légèrement distanciées, mais dont les effets d'écho donnent l'impression de rimes discrètement glissées dans la prose, qui raconte la rencontre manquée entre l'écriture et l'enfant. Fafa ne trouve son nom nulle part dans ce mikado intellectuel, celui de la grammaire, de l'orthographe, qui rime avec zéro, avec une variante en walou. Fafa tombe sur nada, que dalle et que chi. Le personnage a un mauvais karma. Il n'y a pas de Bounoura dans le bottin, que de Farah dans les pas plus de Bounoura dans le bottin que de Farah dans les calendriers. Bottin remplaçant ici bouquin à l'ombre du seul livre qui prévaut dans la famille Bounoura, le Coran, le grand livre de Dieu, bouquin qui valait tous les bottins et les calendriers du monde, comme le dit Yinky Pete. Et l'humour et la beauté aussi, je trouve, de ce début de roman tient aussi à l'intoxication à l'encre et à la mine de crayon, aux aftes et aux ongles rongés, ainsi qu'à d'autres symptômes de stress liés à la concentration. Hein. Le texte évoque les durillons, les douleurs articulaires ou osseuses, voire la déviation permanente de la colonne vertébrale qui recompose avec humour le dressage du corps de l'enfant à la concentration, à la discipline de l'apprentissage, c'est-à-dire à ce qu'il en coûte physiquement pour un enfant d'entrer dans le monde de la scripturalité. Cette plasticité sonore s'accompagne de manipulations sémantiques fondées sur des analogies sonores. Hein. Alors vous avez énormément de paronymes du type « un papa au rhum », mais ça c'est un lapsus de Fafa. Des calembours et des jeux de mots hasardeux du type « bouille de bowling » ou les contrepétries qui sont assez courantes. Lorsque un policier dit à Fafa « Je te rappelle l'article X du code pénal », celui-ci répond « Du god anal, monsieur ». Vous avez tout un tas de... Le livre disons, détaille largement, généreusement, des titres de magazines porno ringards feuilletés en secret par les préadolescents du roman, du type bacchanal d'une blacchanal, les partouzes d'une rousse à flouze, la bombe blonde, l'élastique asiatique, etc. Des réécritures parodiques couvrent également les classiques de la culture scolaire, hein. Vous avez, lorsque Nono se fait casser le nez par son père, c'est la fable du corbeau et du renard qui croise la fameuse tirade de Cyrano, du Cyrano d'Edmond Rostand sur le nez. S'il est vrai que du pif, le paf et le jumeau, vous êtes à tous les coups du signe du taureau. Ces jeux de mots fondés sur des analogies sonores trouvent parfois des effets d'écho tout au long du roman. Hein. C'est une sorte d'analogie sonore qui revient régulièrement. Fafa ne trouve pas son nom dans le calendrier, dans l'Incipit. Il ne serait jamais un saint, pourtant ce fut souvent sa fête. Et le même jeu de mots revient lorsque, et avec le même mauvais rire, d'une certaine manière, lorsque c'est le frère qui est passé, qui est battu par le père, la Saint-Nono commençait. D'autres jeux de mots laissent entrevoir une histoire qui est celle du corps de l'enfant et de sa sexualité dans un sous-texte assez inquiétant, comme celui du second exergue du texte. Je crois que oui, c'est celui que vous avez sous les yeux. Le père masque la mère dans le cœur de l'enfant. Un insecte brûlé qui toujours volera de ses ailes atrophiées. Alors là, vous avez deux paronymes pour le prix d'un. La métaphore des ailes atrophiées, image d'une enfance privée de liberté par un père tyrannique, en même temps que le mot insecte suggère l'amour incestueux empêché par ce même père. C'est-à-dire que la mère qui a véritablement perdu la boule fait des avances à son propre fils. Un paronyme en cache un autre, et les analogies sonores du texte disent les mauvaises pensées d'un roman qui se débat avec cette sexualité trouble. La langue de Ben Othman est aussi remarquable par les mots étrangers qu'elle intègre, dont le texte déploie amplement le relief sonore. Ce récit d'enfance intègre des termes issus du portugais, de l'espagnol, c'est celui des amis de Fafa, et surtout les mots arabes qu'elle intègre au français oralisé qui constitue sa norme. Ce vocable est celui de l'arabe de l'ouest de l'Algérie et de la région d'Oran. On le reconnaît parce que c'est de là que vient la famille, mais il y a aussi des expressions particulières. Par exemple, ils disent « oui, 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 oui », se dit « oua, oua ». Certains mots comme « col » ou « djinn » sont intégrés au français depuis longtemps, d'autres expressions signalent l'étrangeté et la familiarité conjointe de la langue arabe algérienne pour un locuteur hexagonal. Celui-ci ignore à coup sûr ce que veut dire se comporter en manen kepis, c'est-à-dire en je pisse debout. C'est l'une des expressions qui marque l'apprentissage forcé de la masculinité par Fafa. D'autres, sans être d'un usage courant, présentent une familiarité qui les rend approximativement compréhensibles. C'est le cas par exemple du mot khalouf, dans l'expression rap à khalouf, qui qualifie la bouche de Fafa lorsque ses camarades de classe lui barbouillent la figure d'une tranche de jambon. C'est le cas aussi de l'expression ou la radim, elles sont sages comme des images. Alors, qu'un locuteur hexagonal, même s'il ne comprend pas exactement ce que veut dire Oula Khadim, saisit à peu près que ça veut dire « je te jure, je te promets, elles sont sages comme des images ». D'autres mots ont été depuis longtemps intégrés au français, du type moult remerciements et salam alek, alors que certains passages répondent à une transcription phonétique, comme celle qui décrit Fafa en « bon petit muslim », certains mots français sont arabisés. Et c'est le cas, par exemple, de l'expression « oulala », véritable image d'épinal sonore du français, du français hexagonal, que le texte réinvestit dans l'expression oulala khadim. Voilà, vous avez des tas de croisements comme ça où, en fait, qui révèlent non seulement des effets de style propres au roman, mais à quel point l'arabe et le français ont aussi une histoire linguistique commune de longue date. Loin d'être un roman qui célèbre la tour de Babel euphorique du multiculturalisme, celui de Ben Othman relève d'une babélisation déceptive qui dit à la fois qu'il n'y a aucune solidarité entre les différentes populations d'immigrés, mais un mépris racial partagé, dont les dialogues entre les enfants laissent toutefois exister un terrain d'entente et de jeu possible, où le préjugé est en fait pensé comme le premier contact établi avec l'autre. L'insulte IRN, tout particulièrement dans les mots du père, qui dit par exemple « Khaleb, chien » à son fils, « Begra » à sa, c'est-à-dire « vache » à sa fille Karima, « Zbel »« saleté » à sa fille Nadia, Fafa lui est qualifié d'une insulte plus digne, « Rowen » qui a valeur programmatrice, puisque Rowen, c'est voleur. Et de manière plus ludique, dans la parole des enfants qui sortent de l'école, on a d'autres choses, du type « Atezemok Charlemagne », soit un élégant « Nictamer Charlemagne », ce qui résume à peu près bien les rapports que Fafa entretient avec l'école républicaine. À mesure que le clan de Fafa intègre d'autres immigrés, les échanges internationalisent allègrement les injures, hein, tel « va te fuder, pondrero », soit « va te faire foutre, pédé », que Fafa traduit aussitôt en « emche que voy à l'artaille ». Et cette transcription phonétique à laquelle le roman a souvent recours, elle fait parfois entendre des écarts de prononciation en les réinvestissant d'un sens particulier. Alors, par exemple, ici, vous avez une transcription phonétique et des erreurs grammaticales qui sont celles du père parlant à son fils Nono lorsqu'il surprend celui-ci en train de vouloir faire du théâtre. Et il lui dit « Ah, le théâtre, tu veux faire le théâtre ?» Et la liberté aussi, tu veux faire la liberté. Aux onomatopées de désarroi hésitant d'un fils qui veut faire du théâtre, répondent les erreurs grammaticales d'un père illettré, dont les fautes sont détournées de telle sorte que le texte force à réfléchir au point de vue du père, clairement décrit par ailleurs comme un tyran. Tu veux faire la liberté, Ce que fait le persona, c'est qu'il met là où il faudrait un déterminant indéfini, un pronom personnel complément d'objet, devant une notion ou une activité abstraite. L'erreur rend en fait visible le fait que dans le point de vue du père, la liberté n'est que quelque chose qu'on peut singer, un caprice hors de portée. L'erreur grammaticale devient signifiante et volontaire. Elle renvoie à la servilité besogneuse d'un homme dont la toute-puissance tyrannique s'affirme avec d'autant plus de conviction qu'elle est nourrie par les sacrifices de l'immigré. Et comment revendiquer sa propre liberté devant celui qui a sacrifié la sienne pour vous et pour vous élever? Soudain, c'est cette erreur d'accord-là qui est élevée à des hauteurs d'interrogation sur le prix de la liberté. Alors que raconte en somme l'oralité et la dimension sonore de ce roman, et c'est là-dessus que je conclurai, la trame sonore du roman de Ben Othman s'en prend au discours sur l'intégration de toute une époque pour décrire un lien social et familial fondé sur l'injustice, le mensonge, la malhonnêteté, l'indifférence à la souffrance des autres et la cruauté de Dieu. Elle fait entendre cette violence jusque dans les recoins les plus sombres et dans des figures très particulières. Hein, la figure du père tyrannique montre comment celui qui a lutté pour atteindre une situation modeste mais confortable répercute la violence néocoloniale et raciale qu'il a subie sur ses propres enfants. Le roman, cette même trame sonore raconte comment cette violence brime les vocations artistiques et comment elle condamne la sexualité. Hein. Elle parvient à faire entendre la voix d'un enfant jusque dans un sous-texte trouble qui dit l'amour incestueux d'une mère qui a perdu la tête ou les fantasmes de parricide d'un enfant qui subit la tyrannie de son père. Entre le babil de l'enfance et la langue du narrateur adulte, entre le français populaire des rues de Paris et l'arabe d'Algérie qu'on parle dans la famille du narrateur, entre l'argot des prisons et le travail sur la langue que fait le roman, ce récit d'enfance vérifie comment peut se régler, dans le réel d'une langue et d'un style, un type de rapport à la société foncièrement subjectif, dans lequel le lien social se disloque pour faire apparaître l'immédiateté d'exclusion et de violence dont il se paie. Le miracle de cette écriture et de faire entendre cela avec un humour et une inventivité rares qui mettent à contribution tous les recours d'une langue sonore qui s'écoute plus qu'elle ne se lit. Et c'est là-dessus que je conclurai.